Oui, alors une chose qui m'a plu dans l'émission d'aujourd'hui, la fin de l'émission d'aujourd'hui, puis j'ai entendu que la fin, mercredi 19 septembre, c'est le principe de base de la cooptation. Mais ils ont inventé le régime dont je rêve, les Bourges. C'est-à-dire A rend service à B, mais B va pas forcément rendre service à A, mais il rend service à C. C'est un petit groupe, quoi. C'est une société. Et ce que tu fais, ça te reviendra par le groupe. Mais c'est de ça que je rêve, moi. Sauf que je rêve que ce soit étendu à toute la société. Voilà. Ah, ben, ils savent vivre, en fait, les Bourges. Alors, je me dis que il y a un exemple à prendre, là. Et puis, ce qui m'a amusé, c'est quand Daniel a dit... Attends, j'ai noté la phrase. Merde, je l'ai perdue. Qu'il était un petit peu tard pour faire une carrière politique. Mais non, Daniel. Mais non, ton heure va bientôt sonner. Le 18 octobre 2007, c'est de là-bas, si j'y suis, que partira le signal. Voilà, qui lancera la révolution, comme au Portugal, ça avait été le Zeca Afonso. Eh bien, en France, ce sera là-bas, si j'y suis, Daniel Mermet. Il y aura un code, tu sais. Je chanterai, si tu veux. Voilà, c'est pour bientôt, hein. C'est moins d'un mois, hein. Voilà.
Oui, bonjour. Je viens d'entendre une info extraordinaire là au journal de 20h sur France Inter. Bernard Kouchner s'indigne parce que y a un gars là dont j'ai même pas repéré le nom qui était proche des Syriens et qui vient de se faire buter. Et en plus, il s'indigne d'autant plus qu'il a des origines françaises. Alors je me demande si Bernard Kouchner est en voie de connardisation ou s'il avait déjà des bonnes bases avant, quoi. Allez, salut.
Ben, si j'ai bien compris le discours du chef de l'État, les fonctionnaires ont vraiment beaucoup de qualités, vraiment de très grandes qualités. Ils ont un simple défaut, c'est qu'ils sont trop nombreux. Voilà. Alors, ils coûtent trop cher. Jacques Chirac, quand il était président à l'Élysée, il avait 60 gardes du corps. Bon, je me dis, c'est sans doute normal, il a un grand corps, donc il faut beaucoup de monde pour garder son corps. Et puis j'apprends, par un renseignement généreux du Cadard enchaîné d'il y a quelques mois, que Nicolas Sarkozy a 83 gardes du corps, alors qu'il a un tout petit corps à garder, lui. Moi, je pensais que normalement, il devrait avoir besoin de moins de gardes du corps. Et puis j'apprends aussi que ces 83 flics, qui touchent leur salaire, bien sûr, c'est normal, hein, fonctionnaire, ils touchent aussi une prime de 1500 euros par mois. Alors là, finalement, je me dis que, en fait, j'ai rien compris au discours du chef de l'État. Voilà, c'était Jean-Claude de Seine-et-Marne. Salut à vous.
Bonjour, ce sont les renseignements généreux du 18e arrondissement de Paris. C'est pour vous donner une information qui de façon surprenante n'a pas été publiée dans la presse concernant les relations de la France avec l'Iran sur la question nucléaire. Monsieur Kouchner souhaite que l'Iran arrête d'enrichir le nucléaire. Il faut quand même savoir que le nucléaire iranien est enrichi en France. Il est enrichi ici par la société Eurodif, dont l'Iran est, par un montage financier, l'un des actionnaires, et la France est tenue de livrer chaque mois par des camions qui partent de France de l'uranium enrichi. Et aujourd'hui, ça perdure. Donc, il suffit de taper sur Wikipédia Eurodif pour en savoir plus, hein. C'est très facile à trouver. C'est une information qui est sue de tous. Ce n'est pas du tout quelque chose de secret. C'est quelque chose de totalement public. Et pourtant, ni hier dans le Canard enchaîné, ni nulle part dans la presse, on en parle. Aujourd'hui, l'uranium enrichi que l'Iran est censé cesser de produire pour ne pas avoir la guerre est produit en France. Voilà, c'était l'enseignement généreux du 18e arrondissement de Paris. Au revoir.
Bonjour à tous, Laura du Val-de-Marne. Je viens d'entendre l'auditeur qui accuse l'émission Là-bas si j'y suis d'établir un parallèle entre riches et juifs, ceci afin de justifier son mode de vie bourgeois, 4x4, etc. Je suis scandalisée par une telle bassesse. Ma famille a été exterminée dans les camps, ils étaient juifs et pauvres. Arrivés en France quelques années auparavant, fuyant la misère qui régnait en Europe de l'Est après la Première Guerre mondiale pour la grande majorité de la population. Pour mémoire, les nazis prétendaient que tous les juifs étaient riches. À défaut d'honnêteté intellectuelle, que ce monsieur fasse l'effort de s'informer sur notre page noire d'histoire contemporaine. Je suis vraiment scandalisée.
Oui, monsieur Mermet, bonjour. J'ai 33 ans, je suis la PDG d'une entreprise qui était une entreprise familiale où mon père s'est éreinté lundi, mardi, mercredi, samedi et aussi le dimanche pour travailler pour nous léguer quelque chose, quelque chose qu'on a développé. Maintenant, on a 200 personnes, on fait travailler et évidemment, on travaille. Donc, on se lève à 6h le matin et puis on rentre à 9h le soir. Donc, ces émissions sur la bourgeoisie et la facilité de la richesse et la fascination que ça peut provoquer, ce qu'il faut bien voir, c'est que la richesse, nous, on la réinvestit et évidemment, on s'en sert pour consommer. Donc, on a peut-être des belles maisons, des belles voitures, mais on consomme, voilà. On embauche du personnel, on continue et on continuera de consommer. Donc, arrêtez de stigmatiser ces richesses et ces gens-là. Ne confondez pas la bourgeoisie ou la haute bourgeoisie qui n'a rien à voir avec des industriels qui peuvent gagner leur vie et la gagner très correctement. Voilà ce que je voulais vous signaler. Et c'est fatigant, en fin de compte. Vous êtes fatigant. Mais pas fatigant pour nous, parce que de toute manière, arrivé à un moment ou à un autre, on vendra et puis on fera encore plus d'argent et on partira dans un pays où on ne vous écoutera plus. Mais malgré tout, j'aimerais bien que vous arriviez à faire la distinction entre les deux. Haute bourgeoisie et noblesse, et puis bourgeoisie industrielle. Voilà, celle qui travaille, celle qui produit. Voilà, merci.
Ah non, 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 partez pas, ne partez pas tout. Si vous partez, il manquera jamais quelque chose à la France. Ne partez pas, nous on ne veut pas être responsable d'une chose pareille. On n'aura plus aucun auditeur si ça continue. Non, 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 restez, restez au moins encore une journée avec nous, encore une heure. On va parler aujourd'hui, et ça, ça va vous plaire, d'insubordination. L'insubordination, quel beau mot, hein. Et vous savez qui parle d'insubordination ? Eh oui, c'est notre président, absolument. Il a fait l'éloge de l'insubordination lors du célèbre procès des caricatures. Alors, aujourd'hui, nous, bien obéissants, bien subordonnés, on insubordine. Et on insubordine avec qui ? Eh bien, avec les militants d'Action Directe. Mais attention, non, non, Action Directe non violente. Vous allez voir, et vous allez tout comprendre d'ici à 16h. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, avec des remerciements et des applaudissements pour les auditeurs qui laissent des messages relevant des RG, les RG de là-bas si j'y suis, les renseignements généreux de là-bas si j'y suis, sont des renseignements précis, sourcés, recoupés et donc indispensables.
Bonjour, c'est un message des RG. À 81 ans, Alan Greenspan, ex-dirigeant de la Réserve fédérale, l'équivalent américain de notre Banque centrale européenne, publie ses mémoires. Il accuse Bush d'avoir envahi l'Irak dans le seul but de contrôler les réserves de pétrole du pays. C'était un secret de polichinelle, mais c'est intéressant de le voir écrit noir sur blanc par un des hommes les plus influents d'Amérique. Cette info émane du journal El País. Je ne l'ai pas lu dans nos quotidiens, ni entendu sur vos ondes. C'est pourquoi je m'en fais l'écho. C'est une pierre dans le jardin de Kouchner. J'espère qu'il y en aura d'autres.
Bonjour Daniel, bonjour l'équipe de là-bas si j'y suis. Voilà, je vous appelle parce que c'est Alain de Marseille et je viens de passer devant une affiche d'une société d'immobilier qui s'appelle Kaufmann & Broad, dont le sigle est étrangement le sigle EJECT. Et c'est cette société qui a reconstruit une grande partie du quartier de Rouet à Marseille. Vous aviez fait une émission sur les Chibani où des tas de gens se sont fait expulser, exproprier, etc. Et donc je viens de passer devant une affiche publicitaire et l'affiche disait voilà, Kaufmann & Broad, la France propriétaire. Donc voilà, si on avait des doutes entre les connivences entre le pouvoir politique et économique, il y a quelques preuves partout, il suffit de regarder un peu partout. Voilà, merci, bon courage.
Oui, bonjour Daniel. Eh bien, en s'étant annoncé d'attaquant en règle des acquis sociaux qui demeurent, que moi personnellement je préfère appeler d'ailleurs conquête sociale, attaque qui d'après les sondages sera acceptée par la grande majorité des Français. Pourtant, quand je regarde autour de moi, j'ai pas l'impression que tout le monde vit sur un grand pied. Enfin, je propose une petite histoire que j'ai eu l'occasion d'entendre, mais pour laquelle malheureusement je n'ai plus les sources. Alors plantons le décor, nous sommes dans un village africain, tout est sec. Seul gît un homme au pied d'une case, aussi sec lui aussi qu'un bout de bois, et manifestement totalement moribond. Soudainement, un génie se présente à lui, le génie de la dernière chance, et ce génie lui propose de lui venir en aide. et donc lui donne 7 jours pour lui dire ce dont il a besoin pour survivre, sachant que son voisin aura le double de ce qu'il demandera. Le génie disparaît, notre homme réfléchit, passe en vue un certain nombre de choses, et puis bon, oh, des femmes et des enfants, ce serait tellement bien, ou non, des bêtes, des chèvres, un troupeau de chèvres, de l'or, de la nourriture, et chaque fois son visage s'illumine à toutes ses pensées, mais s'éteint aussitôt dès qu'il pense à son voisin qui aura le double de ce qu'il demandera. Les jours passent, comme promis, le génie se présente devant lui et lui dit alors, ça y est, tu as eu 7 jours pour réfléchir, qu'est-ce que tu attends de moi? Et là, l'homme lui dit, crève-moi un œil. La chute est un peu rude, alors qu'elle ne soit pas pour nous. Allez, tous ensemble, au revoir. C'était Véronique de Bâle.
Voilà. J'ai juste précisé avec vous le cadre dans lequel on va travailler et ce que je souhaite que vous fassiez ou que vous ne fassiez absolument pas. D'accord ?
Les consignes, quoi.
Voilà, les consignes de départ, c'est ça. Donc, le but, c'est que les gens ici suivent une formation à 100%, qui soit en aucune manière freinée dans la façon dont ils s'identifient à un rôle, qu'ils se mettent dans une personne, qu'ils fassent un jeu de rôle, etc. Donc, en gros, vous êtes là, bon, je ne peux rien y faire, vous êtes là. Mais si vous pouvez être invisible, c'est l'idéal. Et si à un moment donné, je vous demande, ou Hans vous demande, désolé, House. Mais allez sur le côté ou quoi que ce soit, s'il vous plaît, respectez-le. Ce n'est pas que je manque de respect pour votre travail, mais c'est que mon travail à moi, c'est qu'eux suivent une formation à 100% et qu'ils en retirent le maximum possible. Votre rôle, c'est d'être sur le côté qu'on ne vous voit pas, en gros.
Salut, c'est Daniel Mermel, à Bassi J'y suis avec Guy Vanctil et Renaud Lambert. Action directe, non violente. Flight number 2, arriving from...
C'est la seule chose qui reste, quel que soit le régime.
Dans les actions, j'ai vu qu'à un moment donné, quand les CRS, tu sens qu'il y a une bascule dans les ordres qu'ils ont reçus, de ce qu'ils doivent faire, et tu sens qu'à un moment donné, ils doivent avoir certains résultats, c'est-à-dire gagner 10 mètres, embarquer 10 personnes ou quelque chose. De toute manière, il faut qu'ils le fassent. Et tu sens qu'à ce moment-là, il y a un vrai durcissement de la part des forces de l'ordre, et ils embarquent.
Ne discute pas, tu viens avec nous, allez. C'est comme ça, t'as dépêché tout le monde.
La non-violence, c'est... ce n'est pas simplement le fait de ne pas être violent, c'est le fait de résoudre les conflits d'une autre façon que par la violence.
Pourquoi je suis là? Parce que... parce que je pense que c'est ma place d'être là, et j'ai décidé d'être citoyen comme ça, quoi. Aïe! Quelqu'un par hasard sur l'autoroute en train de changer de radio tombe là-dessus, entend un morceau de l'émission et va dire mais qu'est-ce que c'est que ces bronques quoi.
Ok, on y va, parce qu'il est déjà très tard.
Pardon.
On va commencer. Alors, ben d'abord, merci d'être là, nombreux, d'avoir répondu. À cet appel donc du manifeste des désobéissants et puis de la proposition de stage, l'idée c'était de voir que l'action directe non violente en France, elle semblait renaître au travers évidemment des faucheurs volontaires et puis de quelques autres luttes anti-pub, pacifistes, etc. Mais que on n'était pas encore très nombreux à pratiquer ce genre de militantisme. Donc l'idée, c'est de former une sorte de vivier de militants de l'action directe non violente, un réseau informel, et puis dans lequel d'autres militants, d'autres associations pourront puiser. Ils pourront faire des propositions à notre réseau. J'ai envie d'aller d'organiser une opération anti-pub tel jour. Est-ce que ça vous intéresse? À ce moment-là, l'information circulera parmi nous. Et puis les gens qui sont d'accord avec cette cause et qui sont dispo à cette occasion, eh bien, ils auront qu'à répondre et puis aller sur cette action. Voilà, donc je vais peut-être m'arrêter là et laisser maintenant la place au formateur, je vais prendre la place de simple participant.
Vous avez souri. Ne dites pas non, vous avez souri et vous avez donné raison à l'un des participants qui disait « Celui qui tombe par hasard sur cette émission doit penser qu'on est à moitié branque ». Alors, bien sûr, vous n'avez pas tort de sourire, ça ne va pas être le plus facile de sourire, tant ceux qui sont là sont des gens sérieux, sont des gens convaincus, sont des gens à conviction, vous avez compris. Il s'agit de militants avec leurs convictions qui font un stage dans le cadre de ce manifeste des désobéissants afin de pouvoir intervenir dans des opérations diverses et variées qui viennent d'être décrites, mais ceci dans un cadre non violent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On s'est demandé avec Guy et Renaud tout au long de ce reportage, est-ce qu'il s'agit de militants comme il y en a encore qui sont des dissidents un peu d'un mouvement comme Greenpeace et qui entendent être toujours présents, faire leur boulot de militants, presque des pour pas dire des fonctionnaires, ce serait trop méchant, mais enfin qui ont ce rôle-là, qui ont cette fonction. Ou bien est-ce que, au contraire, dans notre pays, dans notre Europe tout entière, il y aurait un retour de l'engagement politique, des militants qui essayent de changer ce monde, qui croient véritablement, qui croient, je dis bien, avec la conviction qu'un autre monde est possible. Alors, c'est apparu dans les années 90, cette conviction, et puis à l'avance, et puis le recul, elle fait trois pas en avant, puis deux pas en arrière, à moins que ce soit l'inverse. On ne sait pas très bien où on en est, on sent qu'il y a une force, on sent qu'il y a une conviction, et on a voulu en avoir le témoignage sans tirer trop de conclusions, mais avec beaucoup d'attention, tant il est vrai que notre histoire est faite de désobéissance. Désobéissance pas seulement sur un plan social par rapport à un ordre social, mais désobéissance par rapport à un ordre religieux, par rapport à un ordre intellectuel, voire même un ordre économique. Ce sont les désobéissants qui ont fait des brèches, des fractures, et qui ont fait entrer bien souvent des lumières dans nos sociétés et dans nos esprits. Ces désobéissances, elles se sont exprimées de façon symbolique à travers, si on prend le pèlerinage, la procession, ça a donné la manifestation. Et la manifestation, c'est la banderole, c'est le porte-voix, c'est aussi d'autres formes, mais toutes symboliques d'expression d'une désobéissance, descendre dans la rue, marcher sur le pavé, battre le pavé, etc. Et puis ça peut aller évidemment très loin, comme l'on sait, surtout dans un pays comme le nôtre, qui est un vieux pays de guerre civile et qui, de la barricade au cocktail Molotov, a montré qu'il est un pays et il est une histoire d'affrontement. On a bien sûr, depuis 20 ou 30 ans, dit que c'était fini, que l'histoire était finie. Vous souvenez, à la fin des années 80, on nous avait appris que l'histoire était terminée, et on a eu toute une série de penseurs, de médias qui les ont suivis pour nous dire que la page était tournée et que maintenant, eh bien, il y avait un ordre naturel de l'histoire qui était finie, qui était cet ordre des choses qui n'était pas question, évidemment, plus question de remettre en cause et en doute, sauf que y a des évidences qui se sont peu à peu imposées à chacun, dans la vie intime de chacun, qui a fait que il y a aujourd'hui cette contestation, cette volonté de changer les choses et cet ordre du monde, on peut dire, qui est considéré intimement, personnellement, comme insupportable. Mais les répliques qui sont données, les réponses qui sont données, ça va depuis des petites réformes comme celle du citoyen, du consommateur citoyen, qui veut réduire le pouvoir au pouvoir d'achat et qui veut dire un autre capitalisme est possible, en somme, aménager un peu ce capitalisme qu'on trouve un peu trop brutal. C'est une tendance très forte en ce moment. Et puis il y a à l'opposé ceux qui veulent absolument scier les colonnes du temple et changer véritablement, radicalement les choses. Mais on revient, je crois, à ces questionnements dans un monde évidemment bouleversé par rapport au monde des années 70, je parle des lendemains de 68, il y a eu un bouleversement. Mais on voit bien qu'il y a une envie de renouer. Vous allez le voir dans ce reportage, pas seulement de renouer avec cette époque, mais de renouer avec une époque plus lointaine, puisque ce à quoi nous allons assister, l'endroit où nous allons, où nous sommes avec vous, c'est dans le Vercors. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis, le manifeste des désobéissants, action directe, non violente. Aliénation. Privatisation, capitulation, quelle est solution? Hey! Oh! Comment? Ton mégaphone! Pollution, suffocation, la corruption, vérification, ségrégation, désapprobation, pacification.
Ok, mais on va s'y mettre. Hein. Et je crois que la première chose à faire, c'est de se présenter. On va le faire de la manière suivante. C'est de raconter trois choses sur vous, mais de raconter deux qui sont vraies et une qui est fausse. D'accord?
Juan. Alors, je suis un dinosaure de Greenpeace. J'ai été bénévole dans les années 80 et quelques. Je suis un peu à l'initiative de certaines techniques de blocage. Et voilà. Et sinon, ben, je suis marié avec un top modèle.
Je m'appelle Christophe. Et puis voilà quoi.
Donc moi c'est Romain. Moi je suis plus dans des collectifs anti-pub.
Stéphane, alors moi je suis bénévole à la VVF, je suis enseignant en zootechnique et je suis un passionné de sport automobile.
Donc Pierre-Marie, moi je reviens dans les activités parce que justement je suis au chômage. Et donc mon intention est de me rendre disponible si possible.
Jean-Charles Deslandes, moi je viens plutôt de l'antifascisme.
François, je viens de Bretagne, je suis militant dans la mouvance pacifiste et écologiste et je suis ingénieur de l'armement.
Alors Xavier, j'édite des jeux de société militants.
Moi c'est Nico, j'ai nettoyé la mairie de Neuilly au Karcher, j'ai jeté des pavés sur un CRS et j'ai ramené le porte-avions Clémenceau au ministère de la Défense.
Marie-Christine, je viens des Alpes-de-Haute-Provence, j'ai été élue verte. Je suis faucheur volontaire et je suis à attaque aussi.
Ok, je suis Hans. À Belgique, je travaille avec l'organisation Action pour la paix et avec la campagne Bombspotting. Je suis inculpé pour des blagues belges.
Bien, on a fait le tour de tout le monde. Merci pour la présentation. On a dit que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une formation à l'action directe non violente. Okay. On peut discuter pendant des jours, des semaines, des mois, des années, toute sa vie, d'un concept comme la non-violence, rester dans des cadres, des concepts tout à fait théoriques, sans traduire ça dans la pratique. Or, quand on prépare une action, et c'est quelque chose qu'on va encore faire dans la suite de la journée et demain, on va parler, on va s'exprimer, on va agir sur un certain nombre de situations de confrontation qu'on peut rencontrer lors de nos actions, mais comme c'est quelque chose qui va nous demander de bouger, de nous mettre dans la peau de personnage, etc., on va d'abord commencer pour ça. On va tout de suite bouger un petit peu. Tout le monde met sa veste, on va dehors et on n'en profite pas pour aller boire un café.
Petit à petit, nous sommes organisés.
Et de tous les côtés, sur tous les chemins,
Sur toutes les routes s'avançaient des hommes de toutes origines et qui se dirigeaient vers le maître.
La musique héroïque, la voix qui ne l'est pas moins, et le maquis. Et on est dans le Vercors. Est-ce que c'est un hasard si ce stage des désobéissants a lieu dans le Vercors? On a envie de poser la question. Mais c'est vrai que ces mythes de la résistance, qui ne sont pas véritablement des mythes pour ce qui concerne cet endroit de la France. Il faut rappeler que la résistance s'est organisée dans le Vercors en 43, et c'est surtout en 44 que civils et militaires, souvent très jeunes, se sont rassemblés dans les massifs du Vercors jusqu'au combat de juin 44, où les unités allemandes ont se sont opposés à ce maquis, faisant de nombreuses victimes parmi les résistants et aussi parmi les civils. Et il y a eu des déportations, etc. C'est une des pages à la fois terribles et héroïques de notre pays, qu'on oublie tant. C'est une histoire de résistance, des vieilles histoires, c'est des vieilles mythologies aujourd'hui dépassées par les victimes. On est encore dans la période des victimes. Victimes de ci, victimes de ça, concurrence victimaire, etc., dont on parle beaucoup et qui nourrissent le fameux communautarisme. Il semble qu'on revienne un peu à cet esprit de la résistance. En tous les cas, c'est l'ambiance dans laquelle nous trouvons aujourd'hui, même si on n'est pas occupé par les nazis. C'est pas, sans doute pas comparable. La comparaison n'est pas forcément raison, mais on est dans cet esprit-là avec, vous avez vu, cette nébuleuse écolo verte et européenne.
On n'a qu'à marcher tranquillement.
D'accord.
En plus, il y a un panorama qui est vachement beau.
C'est super, mais j'en ai pas trop profité encore. Il faut que je sois sûr de bien l'imprimer dans ma tête avant de partir d'ici.
Parce qu'on est, en plus, c'est un lieu chargé d'histoire, pour le coup. On est dans le plateau du Vercors, en plein milieu.
Ouais, au lieu de la résistance, on a traversé pas mal de villages avec des monuments aux fusillés. C'est vrai que c'est un peu le hasard si on se retrouve ici, mais le symbole est beau, ouais. C'est vrai que c'est une autre forme de résistance à une autre forme d'oppression, mais on est quand même dans cette logique-là que d'un monde qui marche sur la tête et qu'on voudrait changer, bien sûr. Mais là, ce sera de manière non violente, et puis évidemment, on ne combat pas le nazisme. Mais bon, les ravages de l'économie de marché sont quand même pas mal, déjà.
Mais il y a l'idée de se placer dans une descendance, quoi, dans une lignée.
Effectivement, le mouvement ouvrier, les luttes écologistes, les luttes pacifistes, je veux dire, on est dans la continuité de 1000 luttes qui font avancer les choses, évidemment. Alors après, les formes changent ou se renouvellent ou reviennent, puisque la non-violence avait un petit peu disparu, la non-violence active, et on participe d'une réémergence, parce que les faucheurs volontaires d'OGM ont évidemment remis ça sur le devant de l'actualité, donc on s'inscrit là-dedans. Mais c'est des... Oui, tout ça, c'est assez cohérent et convergent.
On rappelle que seuls les maïs avec le sac plastique, avec préservatif, sont les maïs transgéniques. Un pied chacun, s'il vous plaît.
Alors, qu'est-ce qu'on est venu faire ici et avec qui on est? Il y a tout un tas de voitures qui viennent de plein de départements français différents, il y a des sacs de couchage et des gens qui les tiennent.
On est venu se former à l'action directe non violente dans le but de créer un vivier d'activistes qui iront s'engager dans des luttes au gré des sollicitations, des luttes progressistes, des luttes donc écolo, pacifistes, sociales. Parce qu'on a fait le constat que quand on veut sauver la planète de la pollution, généralement on veut aussi résoudre les problèmes de misère, résoudre les problèmes de manque de liberté. Et donc les luttes antisécuritaires, comme les luttes antimilitaristes ou comme les luttes sociales se rejoignent. C'est en fait l'altermondialisme, c'est un monde débarrassé de... enfin non marchandisé. Quoi, non réduit à l'état de marchandise.
Et ceux qui sont là, il y a des bleus ou c'est que des militants aguerris qu'on fait moult actions?
Alors il y a de tout, ça fait aussi la diversité et surtout la richesse de ce groupe. Il y a des gens là-dedans qui n'ont jamais milité, qui ont simplement fait un cheminement intellectuel qui les a convaincus de vouloir défendre des choses, mais qui ne sont même pas engagés dans des mouvements. On a aussi des gens qui sont déjà des militants d'associations diverses, mais qui veulent passer à un degré supérieur d'implication en essayant la pratique de l'action directe non-violente. non-violente. Donc des gens qui étaient simplement militants, pétitions, stands, manifs, et qui veulent maintenant faire de l'action de désobéissance civile, puisque c'est de ça qu'on parle. Et puis il y a là aussi des gens aguerris qui ont une expérience déjà longue de l'action directe non-violente, des déboulonneurs de panneaux publicitaires, des pacifistes et antimilitaristes qui ont fait, on a vu hier des vidéos d'action contre le marché de l'armement Eurosatory et autres. Et puis on a des gens qui ont fait des actions écologistes.
Mesdames et messieurs, Fiat Industrie vous présente maintenant le fleuron de ses réalisations, le Charles Leclerc.
C'est rien passé de flagrant, parce que finalement...
En fait, ils vous ignorent, quoi.
Complètement.
Vous êtes rien du tout, quoi.
Rien, des gueux.
Des gueux.
Des gueux. Nous sommes des gueux.
Mais c'est normal aussi, vous venez contrevenir à l'ordre public.
Oui, l'ordre public, effectivement.
Parce que l'Eurosatory, que... c'est l'ordre public, quand même.
Je ne savais pas que la vente d'armes à la fois à l'Inde et au Pakistan, c'était de l'ordre public. En tout cas, Dassault a vendu des mirages d'un côté comme de l'autre. C'est vrai que, de toute manière, le but des ventes d'armes, c'est qu'elles soient utilisées. Sinon, on ne peut pas les remplacer.
Mais alors, à quoi ça va mener tout ça ? Ça, c'est là, parce que là, il y a un côté jeu, il y a un côté ludique, on se fait des frissons. Il y en a qui jouent la peau du policier, il y en a qui jouent le militant. Mais l'idée, c'est la manifestation, on passe un cran au-dessus.
Oui, bien sûr. Alors, ça va aller dans le sens d'une mise en pratique. Le but n'est évidemment pas de rester dans la théorie et le virtuel. On va évidemment passer à l'action. Mon expérience militante et celle des copains qui sont ici nous a amené à penser qu'il y avait besoin, pour être efficace et pour gagner des victoires politiques, de développer plusieurs méthodes de militantisme. Si on restait strictement dans les règles que l'adversaire nous impose, à savoir la manifestation déclarée, bien gentille, la pétition qu'il parcourt d'un derrière distrait, comme disaient des proches, ça n'est pas complètement inutile, loin de là. Ça permet une sensibilisation, ça permet de mobiliser des gens qui étaient dans l'indifférence ou dans l'ignorance de certains enjeux. Mais à un moment, ça touche des limites. À moins d'un million de personnes, une manif a peu de sens et une pétition, on en a rarement vu d'efficace. Donc, il y a en revanche d'autres méthodes de militantisme qui sont dans l'action directe non violente qui, elles, ont fait leur preuve dans certaines circonstances, pas tout le temps, contre les essais nucléaires, contre la pollution des mers ou des fleuves, dans certaines luttes sociales. Donc on est dans un mode d'action qui est complémentaire des autres modes d'action, qu'il ne s'agit pas de se substituer, mais qui peut avoir une efficacité importante à certains moments. Surtout, ça permet aussi de compenser le fait qu'on soit minoritaire. On peut être majoritaire au niveau de nos propositions, les OGM, les Français n'en veulent pas, le PR, les Français n'en veulent pas, sauf que le gouvernement l'impose. Et on n'est qu'une minorité pour l'instant à être prêt à aller plus loin pour empêcher ces choses-là. Et le côté action directe non violente, ça a une certaine dimension spectaculaire, ça peut faire perdre beaucoup d'argent à l'adversaire, et du coup, ça peut compenser le fait qu'on ne soit pas des millions à se mobiliser.
Manifestons, pétitionnons, et créons une association contre toute forme d'exaction, d'atteinte à la déclaration des droits de l'homme
et de sa femme.
Ensemble, agissons dans le calme. Dignement, mais fermement.
Mais pas cette semaine, je suis pris. Ce soir, je dois voir Jessica. Moi, ce week-end, je suis pas là samedi. Demain, je mène les gosses au cinéma. C'est peut-être possible dimanche alors. Oui, mais en fin d'après-midi. D'accord.
Et pourtant, quand vient le temps, qui désespère de voir comment les choses vont. Heureusement qu'il y a mieux à faire que de voter aux élections. Des petites choses, des petites misères, et pas seulement des chansons. Des petites choses, des petites misères, et pas seulement des chansons. Chacun dans son coin à sa manière, pour faire que la vie soit moins con.
Merci. C'était seulement un petit exercice pour pour réchauffer un peu et donner l'expérience de jouer des jeux de rôle. Donc maintenant, on va commencer un peu avec la partie sur la confrontation.
La confrontation. Ah, ah, nous y voilà. On est loin de, du Val-Fouré, on est loin de, des 4000, des Minguettes et de Clichy-sous-Bois. On est dans le Vercors avec ces militants qui s'entraînent, ces désobéissants, disent-ils, qui se forment à l'action directe non violente et qui nous expliquent ce qu'ils font là, pourquoi ils sont là et leurs convictions et leur parcours. On est passé, dit Annie Colovald, c'est une chercheuse. Elle dit, on est passé du temps où, aujourd'hui, le peuple n'est plus une cause à défendre, c'est un problème à résoudre. Le peuple n'est plus une cause à défendre, c'est un problème à résoudre. On pourrait dire ça de notre humanité. Hein, on est des problèmes maintenant, on est des problèmes, les SDF sont des problèmes, les chômeurs, on est tous des problèmes. Eh bien, il faut, on attend, on espère que notre classe politique va résoudre comme un bon gestionnaire. Or, dans ce qu'on entend là, l'ambiance dans laquelle nous sommes, il y a la nostalgie quand même d'une humanité qui est une cause, d'un peuple qui était une cause, pas seulement la cause du peuple, je n'ai pas allusion à ce, forcément à ce courant et encore moins à ce journal. On voit que les choses sont allées vers le gestionnaire, vers la gestion froide et plus ou moins rationnelle des phénomènes, évidemment dans l'intérêt des patrons de ces gestionnaires. Et c'est ça qui est mis en cause là, c'est ça qui est en tâtonnant, peut-être pas évidemment en englobant, c'est très difficile d'englober tout, ce que nous voulons tout, il y avait un journal qui s'appelait comme ça, ce que nous voulons tout, nous ne sommes rien, soyons tout, disent les paroles de l'international. Mais c'est quoi tout aujourd'hui, ce tout mondialisé, virtualisé, c'est très difficile à cerner. C'est ça que ce matin-là, sortant de leur duvet, ces militants embrasent et embrassent d'abord avant d'embrasser.
Vous l'avez peut-être déjà vu lorsque vous participez à une action. Il peut arriver très bien que tout ne se passe pas comme vous l'aviez espéré. Vous avez en face de vous quelqu'un qui, en gros, ne veut pas que vous fassiez ce que vous avez l'intention de faire et qui a des objectifs tout à fait contraires aux vôtres. Et évidemment, la façon dont vous réagissez à cette confrontation, ça a une influence sur la façon dont cette relation va évoluer. Comment est-ce qu'on va faire pour essayer de vous faire intégrer cette dimension de comment réagir face à une confrontation? Eh bien, on va se mettre dans un certain nombre de situations de confrontation et vous demander de jouer ces situations avec un rôle très précis qu'on va vous expliquer. On va se mettre d'abord, on va faire deux lignes, d'accord?
Voilà, tout le monde se met en atelier. C'est un superbe paysage hein, du Vercors. Avec des... On est sur le plateau avec des vallées autour, les rochers, des pins à perte de vue. Il y a un peu de vent. On est à peu près 1000 mètres d'altitude et tout le monde est en train de se mettre en rang, face à face, pour la suite des exercices à l'action non violente.
Ce groupe-là, vous allez aller avec Hans et il va vous expliquer quel est le rôle que vous allez jouer. Et vous autres, vous pouvez venir avec moi?
Alors, pas.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je trouve ma page, voilà. Le cadre de notre action, c'est la destruction d'un champ de GM. D'accord? On va voir si vous pouvez jouer le gendarme agressif. Ou le gendarme énervé. Parce que donc, il est 5h de l'après-midi, mais vous êtes là depuis 8h du matin. Donc c'est la fin d'une longue journée, il fait chaud, vous êtes resté toute la journée en plein soleil avec votre uniforme, votre truc un peu Robocop comme ça, avec votre casque, votre matraque, votre bouclier, enfin bref, c'était une journée de merde, une journée horrible.
Une journée de flic.
Peut-être. Il a fait chaud, ces activistes ont passé toute la journée à se promener dans les alentours du champ de GM, à vous provoquer, tenter de rentrer, on rentre pas, on reste à l'extérieur, blablabla, enfin ils ont fait vraiment, ils vous ont emmerdé toute la journée. Vous savez que votre boulot, c'est d'arrêter les activistes. C'est la consigne que vous avez reçue. Vous devez les arrêter. Ça a assez duré. Donc, vous pouvez aller au contact.
Donc, on les plaque au sol, d'accord, on les menotte.
J'ai dit les arrêter. Je ne dis pas les plaquer au sol.
On sait tout ce que ça veut dire être arrêté.
Tout dépend de la réaction qu'eux vont avoir en face, évidemment. Ok, est-ce que tout le monde a bien compris son rôle? Tout le monde est dans son rôle? Ok, ben, c'est à vous. Allez-y. Vous là.
Vous restez, vous êtes allez, ça suffit, allez, vous me suivez, allez, ça suffit, allez, vous avancez. Allez.
Il est pris par les bras, secoué, et l'autre traîne les pieds, mais le militant qui joue le policier est en train de traîner littéralement le militant qui joue le militant prêt à se faire embarquer. Et ça continue, et pendant l'autre côté, il y en a d'autres qui arrivent, ceux qui sont avec plus ou moins de bonne volonté.
C'est fini les conneries là, on arrête maintenant. Allez, venez avec moi, on continue. Allez.
Mais attends,
Non, il n'y a pas de. Attends, ras-le-bol, on a passé la journée avec vous les gauchos. On va vous mettre au frais. Non, t'accroches ici là.
Mais ça te fait quoi de faire ça?
Chercher tes copains, toi tu restes ici. Allez.
C'était vite fait, rendement mené.
Ah, ça c'est clair. Tu discutes pas, tu viens avec nous. Allez. T'es comme ça, t'as assez fait chier tout le monde.
Mais vous savez ce que c'est les OGM?
On s'en branle les OGM. Là, viens, on embarque. On prend les jambes.
Ça y est, on peut te reposer. Ils t'ont fait trimballer. Ils t'ont roulé par terre. C'est vachement crédible en CRS.
Ah bah ça fait quelques fois que je les fréquente. À Gênes, notamment.
À Gênes.
Les pires, c'est les Suisses allemands.
Ah bon?
Ah, c'est les pires.
Vous êtes en face de votre partenaire de ce jeu de rôle spécifique.
En face, on t'a dit. On va le répéter ou pas après?
Pour sortir de votre rôle, essayez de discuter pendant une minute avec votre partenaire sur quel était son rôle, quel était votre rôle, comment vous l'avez ressenti et comment ça s'est passé.
Dialoguer, ne pas chercher forcément à forcer le passage, mais expliquer notre combat, expliquer le problème de GM, enfin beaucoup dialoguer quoi.
Ah ouais. Bah nous on était là depuis le matin, on était bien énervés et en fait on avait hâte de vous arrêter, de tout arrêter. Ouais.
On a bien compris, ouais.
Moi j'étais censée discuter avec toi en fait, essayer de te raisonner, voir.
Moi les autres ils diraient quoi, arrêtez la personne, mais du coup, voilà, moi c'est les autres.
J'avais même pas encore fait mine de mettre le pied dans le champ quoi.
Tu t'es secoué un peu ou.
Ah bah oui, je me suis vite retrouvée par terre, je l'ai pas vu venir en plus, ça a été rapide.
Je suis fort.
Vous aussi vous y avez fait face aux gendarmes en vrai?
Oui, et notamment pour aller faucher un champ d'OGM. Et il y avait, ils étaient nettement plus nombreux que nous. Et comme ça, immobiles. On se dit que peut-être ils vont écouter quelque chose. Oui, elle fait bien le gendarme.
Alors, le groupe qui était avec moi tout à l'heure, on va se redescendre là-bas. L'autre groupe retourne avec Hans dans les hauteurs. Et on va voir une autre situation, d'accord?
Très bien.
Voilà, là on est dehors, devant la salle où a lieu la formation, il fait un peu froid, on commence à grelotter, mais toi tu es l'un des deux formateurs qui a dispensé la formation aujourd'hui, et tu viens de Belgique.
De Belgique, oui.
Et tu fais partie d'une organisation qui s'appelle Bomb Spotting.
C'est ça, oui. Bomb Spotting, c'est une campagne d'action, de sensibilisation et de pression politique, centrée sur le désarmement nucléaire total, en commençant par la Belgique évidemment.
Et donc Bomb Spotting est financé comment ?
Est financé en partie par un subside du ministère de la Culture de la communauté flamande en Belgique, dans le cadre de subventions accordées au mouvement d'éducation socioculturelle pour adultes.
Dans les campagnes qui sont menées et dont parlent les gens pendant le stage, on entend parler d'OGM, on entend parler de 4x4, on entend parler de désarmement, de nucléaire. On n'a pas encore entendu beaucoup parler de questions plus sociales.
Je crois que c'est principalement... D'abord une question publique, une bonne partie des gens qui sont là et aussi d'ailleurs qui participent à ce type d'action, c'est un public particulier, c'est beaucoup des pour pas le cacher, des gens d'un milieu assez aisé pour beaucoup, des étudiants, des gens qui ont un parcours intellectuel d'une certaine portée, mais c'est un milieu relativement aisé,
classe moyenne,
socialement conscient, on va dire ça comme ça. Et ce sont pas en effet des ouvriers, des gens des cités, enfin c'est pas ce type de public là. Ce qui ne veut pas dire que ce que nous on appelle action directe non violente est quelque chose qui se pratique pas dans d'autres milieux. La seule chose, selon moi, la seule différence, c'est qu'on lui donne pas ce nom-là. Quand des salariés ou des ouvriers bloquent leur outil de travail, font un piquet de grève devant la rentrée de leur entreprise pour empêcher que le matériel qui a été fabriqué puisse sortir, pour empêcher le travail, etc., c'est aussi, dans une certaine mesure évidemment, c'est aussi de l'action directe non violente. C'est intervenir pour mettre un grain de sable dans la machine. C'est exactement la même chose.
Du nouveau à Besançon, les ouvriers de chez Lippe ont décidé de prendre leur avenir en main. Ils vont fabriquer des montres avec les pièces qui sont encore en magasin dans l'usine. Ils comptent pouvoir en fabriquer 32 000 environ aujourd'hui, qu'ils veulent ensuite commercialiser grâce à un réseau monté par eux-mêmes. Et Bernard Delcroix a pu obtenir quelques précisions auprès d'un responsable.
Que comptez-vous faire des montres que vous avez construites ?
Ben, disons que c'est une marchandise qui nous reste comme point d'appui pour nos revendications. C'est tout ce que je peux...
Le rêve est devenu réalité. Le rêve est devenu réalité. C'était en 1973, à la une du quotidien Libération, au sujet des luttes des LIP. Et les LIP, vous vous souvenez, c'était à Besançon, c'est ces travailleurs de cette usine qui fabrique des montres qui avaient pris l'autogestion, si on peut dire, de leur entreprise, avec le slogan fameux « C'est possible, on fabrique, on vend et on se paye ». Et cette lutte a marqué, au fond, la fin des 30 Glorieuses et de ce type de conflit, en même temps ouvrait, marqué le début de cette désindustrialisation que notre pays, entre autres pays européens, a connu. Là, on a compris qu'on est avec des militants de classe moyenne, et il y a toujours eu cette différence entre les verts et les rouges. Hein, les rouges, disons plutôt LIP, et les verts, qui se soucient d'environnement. Quelqu'un disait « jamais vert sans rouge », je crois que c'est René Dumont qui disait ça. Mais on reparle de tout ça, parce que ces luttes et ces questions reviennent ici, avec cette formation, à la suite à ce manifeste et des obéissants, cette formation à l'action directe non violente. Bien évidemment que je suppose que tous ceux qui sont dans les forces de l'ordre et qui écoutent cette émission doivent se frotter les mains en disant voilà des braves petits gars qui nous assurent du boulot pour aujourd'hui et un avenir. Même si aujourd'hui, comme dans ces époques que j'évoque, les manifestants criaient très souvent à l'adresse des forces de l'ordre et des CRS, des CRS notamment, je me souviens de l'avoir moi-même entonné, CRS, c'est pour vos enfants que nous nous battons.
Je m'appelle Christophe.
Christophe.
Je viens de Paris, je suis bénévole à Greenpeace depuis quelques années.
T'es à quel âge d'ailleurs ?
Bientôt 30.
Tu bosses t'es...
Oui, je travaille dans la finance, informatique de gestion, banque, assurance.
Ah oui !
Voilà, ouais. Donc je travaille depuis 8 ans et donc en ce moment c'est vraiment la démarche de me sortir de ça, de réfléchir un peu à comment faire et puis rentrer en cohérence un peu avec tout ce que je découvre et tout ce que je veux accomplir.
Mais c'est des grosses banques, c'est des grosses boîtes ?
Oui, les plus grosses dans la banque ou l'assurance.
Et donc tu bosses en costard et tout ça ?
Oui.
Un vrai col blanc quoi ?
Voilà, avec la cravate et tout.
Et j'imagine que le salaire doit aller avec ?
Oui, et d'ailleurs c'est un peu l'avantage en fait pour bien me rentrer dans le côté militant, c'est que ça me permet déjà de financer un peu mes voyages, de ne pas travailler tout le temps non plus, et puis de prendre des jours sans solde, des choses comme ça quoi.
Mais alors j'ai toujours pas compris pourquoi t'étais pas un cadre supérieur épanoui. Vraiment, c'est ceux qui réussissent quand même, qui bossent dans la finance et dans la banque quoi.
Oui, voilà.
C'est le modèle de réussite qui prévaut.
C'est le symbole de réussite sociale, c'est ça, de gagner de l'argent, tout ça, mais je saurais pas trop comment dire... Ce que je vois, c'est qu'avant, je me contentais de vivre pleinement la vie telle que je l'attendais. Donc, d'avoir de l'argent, de pouvoir consommer ce qu'on veut, d'obéir un petit peu au canon, je dirais, de la consommation actuelle. Je suis passionné d'informatique, je joue beaucoup aux jeux vidéo.
Console.
Et d'avoir des choses, que c'est pas ça en fait qui apporte l'épanouissement personnel. Je me suis rendu compte que voilà, ce que je recherchais, c'était le contact avec les amis, c'était de pouvoir m'amuser, c'était toutes ces choses-là. Donc là, j'imagine, par exemple, donc lâcher mon boulot, essayer de trouver quelque chose dans la militance.
Ah ouais.
Et oui,
quitter la banque possible.
Oui, bien sûr. Ce temps que je passais au boulot, je ne passais pas à vivre pleinement ma vie.
Et, oui, mais tu pourrais aussi bien jouer au golf, plutôt qu'être avec des militants altères.
Oui, mais justement, c'est de me rendre compte que la société telle qu'elle existe aujourd'hui, telle qu'elle est conçue, de voir aussi non seulement ma position personnelle, mais aussi de voir un peu le malheur qu'il y a autour de moi, de voir quels sont les points communs et d'où viennent tous ces points communs. Et donc, j'en suis arrivé à une espèce de critique du capitalisme. Et là, ça va être peut-être...
Alors que travaillant dans la banque, tu n'étais pas du tout parti de ce terrain-là.
Non, en fait, je suis arrivé dans la banque parce que j'aimais l'informatique. L'informatique, ça marche pour la comptabilité, mais ça marche aussi pour la militance, pour la transmission d'informations, pour des choses comme ça. Je suis en fait de plus en plus radical un peu dans les idées, contrairement justement à des amis qui étaient lancés dans la politique avant moi, justement chez les Verts ou autres, qui eux justement m'avaient dit exactement le contraire, c'est que le parcours normal d'un militant politique, c'est plutôt être complètement radical sur des choses, et au fur et à mesure qu'on rentre dans, peut-être dans le système politique, ou qu'on avance dans la vie, ou simplement d'avoir simplement à se nourrir le lendemain, eh bien on commence à se ranger, parce que bon, c'est bien, mais alors que moi c'est vraiment, je me rends compte que j'ai le discours complètement inverse. Autant, je dirais, je sais pas moi, quand j'étais au lycée, que je me posais un peu la question pour quel parti je pourrais voter ou tout ça, j'avais plutôt des choses, plutôt de sensibilité de droite. Donc oui, j'ai déjà voté pour la droite. Et donc au fur et à mesure, eh bien, je me suis rendu compte que ça passait de plus en plus vers un peu l'anarchisme, l'extrême gauche, sur pas mal de points.
Et tes collègues de bureau dans la banque, ils sont au courant de tes opinions? Ils savent ce que tu fais en dehors du bureau?
Bah, en fait, déjà, j'en parle pas avec n'importe qui. Donc, c'est déjà avec des gens avec qui je sais que je peux déjà en discuter plus facilement. Quand on commence à discuter de ces choses-là, on est très vite catalogué environnementaliste ou vert ou autre, parce que on n'a peut-être pas un discours très clair ou les gens ont des idées très très arrêtées sur ce genre de choses. Ils sont curieux. Il y a pas justement. Il y a peut-être le côté doudingue, mais ça, ils le montrent pas. Et le plus marrant, c'est justement, j'ai discuté donc avec un collègue d'AXA sur un petit peu ma démarche justement.
AXA Assurance.
Oui, AXA Assurance. Et là, c'était encore hier, me demander, tu nous donneras des cours ou un truc comme ça, quoi.
Mais alors, qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu ferais pas?
Et aujourd'hui, justement, je sais pas. Donc, typiquement, cette formation-là, c'est de voir un peu comment pensent les gens, comment moi je pense, et voir un peu les limites de tout ça, de tout partager, et de chercher un peu ce que je ferais demain. Mais aujourd'hui, j'ai pas de chemin tracé, j'ai pas d'idéal. Tout ce que je peux dire ou penser, ce serait pour continuer à tracer ma route, voilà, tout simplement.
Et pendant ce temps-là, à côté, ils sont tous en train de apprendre à comment s'enchaîner. Il y a un atelier où tout le monde a sorti, ils ont sorti des espèces de U et des tuyaux pour voir comment se bloquer. Alors on va voir comment ils font, parce que ça peut toujours te servir, non?
Oui, bah oui.
Tu es déjà enchaîné ou pas?
Non, jamais en fait. Et justement, j'ai découvert les systèmes là aujourd'hui avec Juan. On était venus en voiture hier soir ensemble.
Il est très limite. On se le passe dans la grille derrière.
Voilà, pendant ce temps-là, c'est le cours sur comment se mettre un antivol autour du cou pour s'enchaîner.
Et on se ferme ici.
Et on avale la clé.
La clé, pensez toujours. Il faut que quelqu'un d'autre ait une clé parce que ça peut vous arriver de perdre la clé. Là, vous êtes comme un con. Ça, c'est la position la plus difficile. Parce qu'ils essayent de nous faire sauter la tête, enfin, de nous passer la tête. Alors, je vous montrerai une vidéo, ou peut-être tout à l'heure, sur une action où ils ont vraiment essayé de force à ce qu'on passe la tête. Alors, ça en passe un très mauvais moment, surtout s'il y a des caméras devant, en plus, c'est très douloureux.
Après, ah, mais c'est bon, ça, s'il y a des caméras et qu'ils sont en train de te voir souffrir.
C'est bon, on veut des martyrs, mais jusqu'à un certain point.
Ben oui, justement,
c'est des chaïdes.
Tant que la tête, elle ne se décolle pas, c'est bon.
Tant que la tête tient, ça arrive avec des grandes pinces hydrauliques. Ça a beau être de l'acier trempé, ils arrivent à le péter. Alors quand ils arrivent avec la pince et qu'ils vous foutent la pince là, c'est aussi très traumatisant. C'est un seul mauvais moment. Sur certaines actions, ils n'ont quand même pas hésité à y aller au chalumeau. Et au bout d'un moment, tu dis, bon, ça va, il y a les photos, les médias. Puis les médias style, au bout d'un moment, toi, ils ont pris leurs photos. Je suis désolé, mais les médias, mais bon, ils ont pris leurs photos, ils sont contents. La nuit tombe, t'es comme un con, tu dis, qu'est-ce que je fais, à quoi ça sert, toi, au bout d'un moment. Après, ça, c'est des décisions qui se font en groupe, qui se font des discussions avant combien on doit tenir, si on doit tenir 3 jours, 2 jours ou 2 heures. Quoi. Ça, c'est important d'en discuter avant.
C'est une nouvelle diffusion du reportage de Guy Vonctil et Renaud Lambert pour l'émission « Là-bas si j'y suis » de Daniel Mermet. Vous retrouverez la suite demain à 15h. Merci à Xavier Renaud et à tous les militants non-violents. Et si vous aussi vous souhaitez devenir un militant non-violent, eh bien vous le pouvez. Et oui, à partir de demain, vendredi 21 septembre jusqu'au 23 septembre, en participant au festival « Peace and Land 2 ». Ce stage de désobéissance civile se déroule à Lateste en Gironde et votre mission sera d'éradiquer les armes de destruction massive. Votre statut, inspecteur citoyen. Toutes les informations de ce festival sont sur le site www.nonmissilem51.org. À la technique aujourd'hui, Christophe Papon et Rémi Quincé. Cette émission a été réalisée par Yann Chouquet et Koyan Guyen, assisté de Charlotte Perry. Et le chef du répondeur, Christophe Imbert, attend avec impatience vos messages au 01 56 40 37 37.